BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
C'est votre avenir financier qui prend le pouvoir. Chaque après-midi, 15h30, 18h, on avance au rythme des marchés grâce à Étienne Braque nous accompagne depuis la Tour Euronext. Bonsoir Étienne, dans une demi-heure pile, vous nous ferez vivre la clôture. Comment ça se présente tout à l'heure pour le CAC ?
Bah écoutez, le dicton qui dit jamais 203 ne devrait pas se confirmer aujourd'hui puisque vous avez un CAC 40 qui est bien parti pour faire une pause après deux séances dans le vert. Moins 0,3% pour l'indice parisien qui perd les 8100 points, 8084 points. Le Dow Jones de son côté est en repli de 0,3%. Boeing qui était bien parti à l'ouverture il y a plus d'une heure et demie commence à s'essouffler. Le Nasdaq également, il gagnait quasiment 1% et désormais c'est une hausse de 0,2% grâce notamment à des nouvelles encourageantes du côté de Texas Instruments, du côté de ASM, également à Amsterdam, qui voit une reprise du marché des semi-conducteurs en Asie. Mais ça ne suffit pas à poursuivre la reprise de ces derniers jours. À noter qu'il y a un indice qui a touché un record historique aujourd'hui en Europe, c'est le FTSE à Londres, grâce notamment aux valeurs pétrolières. Et puis à noter l'obligataire pour terminer qui continue de galoper. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour le marché action. 4,65 pour le 10 ans américain, quand le 10 ans français est toujours au-delà des 3% à 3,1%.
Le 10 ans américain remonte effectivement, continue de progresser après les commandes de biens durables, d'ailleurs aux États-Unis qui réaccélèrent toujours cette incroyable dynamique de l'économie américaine. On aura demain le chiffre du PIB, le PIB du premier trimestre en première estimation. Il sera publié demain en début d'après-midi. En tout cas, les publications, c'est vrai, sont alors mitigées, mais on a du bon quand même. Du côté, par exemple, des signaux en provenance des consommateurs. Visa nous dit c'est positif. Et les résultats, les perspectives de Visa, d'ailleurs, plaisent au marché. Ce titre Visa gagne en ce moment 3%. Hilton, les hôtels aussi, nous dit Hilton que le nombre de voyageurs devrait continuer de progresser. Ils attendent toujours une vague montante de tourisme. Hilton gagne en ce moment sur le marché américain plus de 5%, même si c'est vrai, les gains à Wall Street sont en train peu à peu de se tasser, comme c'est le cas aussi en Europe. On reviendra sur ces valeurs marquantes du jour, et évidemment, on ne l'a pas encore cité, mais on y pense tous, Tesla. Tesla qui, de son côté, gagne plus de 12%. Et ce qu'il faut voir dans la communication d'Elon Musk hier, alors juste de la com, ou plus, nouvelle stratégie et peut-être un réenchantement de Tesla dans l'esprit des investisseurs, on va poser cette question. Et puis la question aussi des cotations à Wall Street. Va-t-on vers des cotations en continu un jour ? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des horaires d'ouverture et de clôture des marchés. Un jour, peut-être, n'y aura-t-il plus d'ouverture ni de clôture, une cotation permanente. C'est une question qui se pose régulièrement et les dirigeants du New York Stock Exchange s'interrogent sur ce point. On challengera l'idée avec nos experts. On est à vos côtés, on joue dans votre camp. Bienvenue à tous.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Et alors un feuilleton aussi depuis le début de l'année, Boeing qui enchaîne les déboires, d'ailleurs de nouveaux déboires sur une roue qui s'est détachée d'un appareil là, ces dernières heures encore pour Boeing, mais la publication elle est saluée. Boeing a annoncé ses résultats et ses perspectives, le titre gagne 2% aujourd'hui à Wall Street. On en parlait avec John Plassard à 15h30, si vous avez raté direct, replay sur notre application BFM Business, le replay d'ailleurs est d'ores et déjà en ligne. Nos coéquipiers du club pour mesurer le potentiel des marchés, Emmanuel Salle, bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Guillaume.
Président de la Financière de la Cité, bienvenue. David Gau aussi nous accompagne. Bonsoir David.
Bonsoir.
Partner, responsable, directeur de l'investissement de B. Durand Capital Partners. Merci beaucoup à tous les deux de nous accompagner ce soir. Bon, on est encore dans la première phase, le début de la saison de publication, mais on accélère sérieusement là. La tonalité globale, comment vous sentez là, cette tonalité, l'état des entreprises maintenant qu'on commence à avancer un peu plus sérieusement dans cette saison, David?
On a un peu tous les cas de figure, déjà. On a des sociétés qui finalement produisent des résultats qui sont pas très bons, mais qui sont moins mauvais qu'attendus. Et donc le marché a tendance quand même à saluer ces résultats qui sont moins mauvais. Vous avez d'autres sociétés qui sont prudentes, notamment au niveau du chiffre d'affaires, et donc qui se projettent assez peu. Et là, c'est vrai que le marché a un peu de mal à se positionner. Et puis comme vous l'avez mentionné, vous avez quand même les sociétés qui osent un peu se projeter et emploie le temps du futur dans la publication de résultats, et avec ce temps du futur indique que finalement les perspectives sur les trimestres à venir semblent plutôt bien assurées, et le marché a envie d'y croire. Et finalement, bon, on le voit avec Tesla notamment, un effet d'annonce et puis un rebond sur la valeur. Donc c'est plutôt, on a plutôt un peu tous les cas de figure, mais c'est assez en bonne santé, enfin je dirais, de ce point de vue là il n'y a pas pour l'instant de grosses.
Et quand, grosses quand les entreprises parlent au futur, comme vous dites, quand elles surprennent positivement ou qu'elles rassurent le marché, on voit que le marché est capable de sanctionner très positivement, dire de saluer vraiment. On a donc Hilton, les hôtels optimistes sur le potentiel du tourisme toujours. Hilton gagne 6%. Texas Instruments, discours très positif sur l'écoulement des stocks. Texas Instruments gagne aussi 6% en ce moment sur le marché américain. Et Tesla, vous l'avez cité, gagne 12%. Donc malgré les niveaux de valorisation, le marché est capable de saluer positivement les bonnes surprises. Il en reste capable, on se posait la question.
Oui, d'autant plus qu'il est capable de connecter avec certains indicateurs macroéconomiques qui nous montrent qu'en fait, les choses sont en train potentiellement de réaccélérer, notamment au niveau des exportations. On le voit, hein, 3 mois sur 3 mois, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine, que ce soit au niveau global, on a des chiffres qui surprennent à la hausse. Et donc l'image des résultats des 3 derniers mois, en fait, probablement sur les 3 prochains mois, on va avoir cet effet macroéconomique qui va jouer favorablement. Et donc il n'est pas illégitime de se dire que les 3-6 prochains mois pourraient être en fait meilleurs qu'attendus. Et quelque part, tout ça est aussi validé par la Fed, qui finalement continue de ne pas baisser les taux, en disant finalement la situation, on vous le dit, est finalement meilleure qu'attendu.
Oui. Donc, Visa aussi sur le comportement des consommateurs, les achats, Visa gagne 3%, ouais. Parce que le discours est aussi plutôt favorable et optimiste. La publication également, elle est conforme aux attentes, la publication. Emmanuel, votre premier regard à vous, parce que là, David, voilà, vous avez état de sa vision des publications, quelle est la vôtre?
Écoutez, j'ai le sentiment effectivement que l'environnement global est plutôt favorable. Il est porté, il est vrai, par des conditions macroéconomiques et monétaires tout à fait exceptionnelles aux États-Unis. Donc les États-Unis restent le consommateur en dernier ressort. C'est là où se trouve le principal gisement de croissance mondiale. Et effectivement, les marchés s'alignent sur un pilotage macroéconomique et financier qui a été remarquable de la part des autorités américaines depuis maintenant près d'une dizaine d'années. Je crois qu'il faudra néanmoins surveiller ce qui se passe en Europe et notamment la réponse de la BCE à cet environnement d'activité de croissance important qui s'accompagne, vous l'avez souligné, d'une inflation peut-être également plus forte que nous ne l'attendions compte tenu des politiques monétaires qui avaient été menées ces derniers mois. Mais globalement, l'environnement est effectivement plutôt favorable et conduit, malgré le niveau des taux d'intérêt à long terme, à demeurer investi structurellement sur les marchés d'actions à long terme.
Et alors, on voit les publications plutôt, alors diversement accueillies, hein, il y a aussi des mauvaises nouvelles, on en parlera. Il y a Kering, on ne va quand même pas occulter. Kering, c'est une grosse déception, même si le groupe avait déjà prévenu, avait warné, comme on dit, au mois de février. Bah, Kering, la publication, les perspectives, moins 5% aujourd'hui Kering. On a Eurofins aussi à Paris qui souffre beaucoup, qui déçoit, qui perd 7,5%. Donc on voit que le marché est capable aussi de sanctionner négativement. Mais aussi des bonnes nouvelles, aussi des belles publications. Et au global, c'est plutôt positif. Ça n'empêche pas le marché aujourd'hui de reculer un peu. Parce qu'on a cette pression obligataire. Vous le disiez, attention au risque de mauvaise surprise du côté des banques centrales. Attention à l'inflation, c'est ce que vous venez de dire à l'instant, Emmanuel. Le 10 ans américain est à 4,66 aujourd'hui. Le 10 ans français est à 3,1%. Est-ce que vous êtes dans le camp de ceux qui attendent moins de 2 baisses de taux désormais aux États-Unis, voire pourquoi pas, ils sont 20%. C'est pas beaucoup, mais quand même 20% à penser qu'une hausse de taux supplémentaire est encore possible aux États-Unis.
Écoutez, je ne crois pas à une remontée des taux d'intérêt directeurs aux États-Unis. Je crois qu'une grande partie des chiffres d'inflation provient d'effets retard sur la consommation, notamment l'assurance liée à l'achat de biens durables. Vous avez des effets, vous savez, l'inflation n'est pas quelque chose qui est totalement linéaire. Vous avez des effets de retard dans la manifestation des chiffres d'inflation qui se produisent actuellement aux États-Unis. Donc une remontée des taux directeurs aux États-Unis, je n'y crois pas. Il me semble que la Fed fera attention de ne pas casser la dynamique de croissance. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, la Banque centrale a un double mandat. C'est à la fois de contenir l'inflation, bien sûr, mais également de faire en sorte que la croissance reste soutenue, donc on n'ait pas trop de chômage, et donc elle est particulièrement sensible à ce mandat dual, comme on dit outre-Atlantique, et donc je ne vois pas la Fed s'engager dans un cycle de remontée des taux d'intérêt, et je pense que...
Et le marché fait le job à sa place, à la limite, on est à 4,66.
Oui, le marché fait le job, enfin disons, le marché, il se porte plutôt bien, hein, et quand le marché se porte plutôt bien, c'est que la liquidité est là, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis la bourse, c'est une, comment dire, un élément, c'est une d'amélioration, enfin de fonctionnement de la liquidité. Le marché boursier joue une fonction tout à fait différente aux États-Unis qu'en Europe. Donc aujourd'hui, je ne vois pas la Fed remettre en cause fondamentalement son cycle de baisse des taux d'intérêt. Et un dernier point, je pense que les États-Unis pourraient se contenter d'une inflation inférieur à 3% et que l'objectif des 2% n'a pas le même, comment dire, n'a pas la même la même importance qu'il a aux yeux des autorités monétaires européennes.
Alors, est-ce que ce scénario-là, à savoir une Fed qui baisserait ses taux, qui commencerait à les baisser même si l'inflation n'est pas revenue à 2%, est-ce que ce scénario-là, vous y croyez? Parce que ce serait un sacré nouveau paradigme, en l'occurrence. On aurait une inflation au-dessus des 2% et quand même des baisses de taux. Alors une inflation de 3%, c'est plutôt bon pour la croissance quand même. Et en même temps, les baisses de taux. Donc le scénario plus que parfait en l'occurrence. On parlait du futur, là on serait dans le plus que parfait en l'occurrence, David.
C'est un peu ce que se prennent à rêver les marchés, en fait, d'avoir un petit peu ce contexte d'ensemble. Alors il y a le sujet de l'inflation sur la baisse des taux, mais il y a quand même un autre sujet qui est en train d'arriver derrière, c'est la dette. Et le coût de la dette, on le voit, est en train d'exploser de partout. Donc, on est une banque centrale aujourd'hui. On ne peut pas rester à l'écart de ce débat. Nécessairement, la Fed voit, notamment 2025-2026, on va avoir des renouvellements d'émissions obligataires absolument phénoménales. Hein. Le gros du renouvellement et du rôle, en fait, de obligataires va intervenir dans les deux prochaines années. Parce qu'aujourd'hui, en fait, une majorité d'entreprises et de particuliers ne sont pas tant que ça affectés par la hausse des taux. Et alors, où on l'ignore, et puis ben, on va avoir une crise, parce que soudainement, l'année prochaine ou 2026, on va véritablement voir l'impact des taux élevés. Ou alors, finalement, la Fed a réussi à stabiliser l'inflation à un niveau qui reste acceptable. Et puis, il y a quand même un travail qui est fait graduellement pour baisser un petit peu les taux d'intérêt, pour que finalement, l'année prochaine, quand tous les crédits sont renouvelés, on ait un système qui, finalement, ne prenne pas les entreprises et les particuliers à la gorge. Donc ça, ça va être un élément important. Et c'est pour ça qu'on pense qu'on peut avoir quand même 3 baisses de taux cette année, 25 points de base à chaque fois. Quelque chose de régulier, finalement, pour changer un peu. Ne pas trop surprendre les marchés, montrer que voilà, il y a eu des efforts et des progrès de fait. Ça ne nous emmènera pas à des niveaux extrêmement bas non plus, hein, mais ça serait finalement assez bien. Et finalement, c'est un peu ce que nous disent les taux long terme actuellement, qui montent tous un peu en tandem. Il y a un peu cette idée que finalement, il n'y aura pas de trop grosses disparités dans les différentes politiques.
Peut-être un peu moins de volatilité aussi espérée sur le marché obligataire.
On peut espérer, parce que c'est vrai que ça l'a beaucoup pénalisé.
On est à 19 minutes de la clôture, on entre dans la dernière ligne droite et on accélère. Hélas, à la baisse, puisque le CAC 40 a maintenant donc 19 minutes, perd 0,25%. Rien de méchant, mais on était encore dans le vert il y a une demi-heure. Voilà, on a basculé légèrement dans le rouge à Paris, avec aussi Wall Street qui a changé d'humeur. Wall Street avait ouvert nettement dans le vert grâce aux publications. Et puis finalement, le S&P 500, là, à l'instant, perd 0,27%. Les valeurs qui se distinguent, alors on le disait, à la baisse, Eurofins, scientifique, on y consacre un article d'ailleurs sur bfmbourse.com. N'hésitez pas à le consulter, cet article, parce que Eurofins, sur sa publication, déçoit pas mal et les perspectives, moins 7%. Donc, depuis son introduction en bourse, c'est un entrée dans le CAC 40, attention, pas l'introduction, mais depuis son entrée dans le CAC 40, c'était en 2021, il y a presque 3 ans et demi, eh bien Eurofins a perdu 50% quand même. Voilà, une nouvelle entrée au CAC qui s'est soldée ensuite par une forte baisse. C'est le cas pour Eurofins, c'est le cas pour beaucoup d'acteurs quand ils entrent dans le CAC, ensuite, paf, c'est beaucoup plus compliqué. Pour Eurofins, aujourd'hui encore plus, donc après cette publication, moins 8%, lanterne rouge, l'article est donc consultable sur notre site BFM Bourse. Kering aussi en repli de plus de 6%, on va y revenir dans un instant sur Kering, qui désormais en bourse pèse 2 fois moins que Richemont, par exemple. Kering est en train de devenir un nain du luxe en bourse. 2 fois moins que Richemont en termes de capitalisation. Et puis à la hausse, à l'inverse, on a Renault qui hier avait un peu sous-performé. Aujourd'hui, Renault gagne 3%, puis surtout ST Microelectronics. Grâce à Texas Instruments et sa publication, le titre STM gagne 5,2%. On en parle avec Emmanuel Salle et David Go. Oui, les semi-conducteurs, la semaine dernière, c'était compliqué. Là, ça va mieux. Texas Instruments nous dit, on arrive, ça y est, à écouler davantage les stocks. Texas Instruments à Wall Street gagne 6% aujourd'hui. On a ASM aussi qui tient un discours très positif désormais. Et ST Microelectronics gagne 5,2%. Voilà. La semaine dernière, on se demandait si c'était la fin du méga trend sur les semi-conducteurs. Là, on se dit que c'était juste une pause, une respiration pour mieux rebondir. Enfin, comment est-ce que vous voyez le potentiel, David?
Sur les semi-conducteurs, l'année 2023 a été compliquée, hein, au niveau opérationnel. On avait des niveaux d'inventaire qui étaient élevés. Il a fallu épurer en fait ces inventaires. Donc en fait, on a typiquement un secteur qui, depuis 3, 4, 6 mois, sort en fait d'une phase de baisse et de ralentissement. Et c'est pas le cas Nvidia qui est très spécifique, mais c'est en fait tout le reste des semi-conducteurs, que ce soit les semi-conducteurs mémoire, les semi-conducteurs analogues, tout ça a souffert en fait l'an dernier. Et donc vous avez maintenant ce rebond. Et ce qui explique, entre autres, finalement, les publications de Texas Instruments. C'est aussi un secteur, pour certaines de ces valeurs, qui est moins cher que les sociétés de design de chips. Donc, si vous voulez continuer à jouer en fait cette embellie et cette tendance à la fois sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur les segments plus classiques du hardware, c'est très intéressant d'aller se positionner sur certains de ces acteurs qui sont alors moins haute technologie que Nvidia, mais qui ont aussi des valorisations très intéressantes. Texas Instruments, c'est quand même 50% de marge opérationnelle, donc c'est une boîte extrêmement efficace, et en termes de valorisation, qui se paye la moitié de Nvidia. Donc dans un portefeuille, on peut avoir du Nvidia et puis commencer à rajouter du STMicro et du Texas Instruments.
Et Nvidia qui, grâce à Texas, d'ailleurs, renoue, c'est Étienne qui nous alertait là-dessus tout à l'heure, avec les 2 000 milliards de dollars de capitalisation, soit dit en passant. On a un rebond là de Nvidia. De votre côté, Emmanuel, comment est-ce que vous regardez le potentiel de cette thématique semi-conducteur sur laquelle on a eu pas mal d'interrogations, et un groupe comme STM notamment, là aujourd'hui on est à +6, est-ce qu'on déclenche un nouveau cycle, d'après vous, sur un groupe comme STM, par exemple?
C'est tout à fait possible. C'est un secteur qui, effectivement, on le remarquait, a fait preuve d'une, comment dire, a été caractérisé par une très grande disparité, avec une très forte valorisation des valeurs comme Nvidia liées à l'imagerie électronique et, bien sûr, à l'intelligence artificielle. Pour notre part, nous préférons effectivement investir sur des valeurs qui présentent un profil peut-être un tout petit peu plus diversifié. Je pense notamment à AMD, par exemple, aux États-Unis, qui travaille non seulement dans le secteur de l'intelligence artificielle, mais également pour les serveurs. Donc, on peut effectivement se constituer un portefeuille plus diversifié, à la fois sur le côté sur le software, mais également sur le hardware, en se positionnant sur les fabricants et les spécialistes du dessin de ces outils.
Une autre thématique, alors qui marque une pause, mais qui n'en est peut-être pas, qui n'en a peut-être pas fini avec son chemin haussier, et c'est vous, Emmanuel, qui avez voulu nous alerter là-dessus, c'est l'or. L'once d'or en ce moment. 2 345 $, on a un petit peu baissé depuis le record il y a quelques jours, quand on était au top des tensions géopolitiques, notamment entre Israël et l'Iran, l'or avait battu de nouveaux records. Là, depuis, il s'est affaissé, mais pour vous, cette baisse de l'or n'est qu'une pause, son chemin haussier, son trend haussier n'est pas encore achevé.
Oui, je pense qu'effectivement, on a encore un potentiel pour l'or. Alors, ça c'est pas véritablement, le mot affaissé me paraît un peu excessif. Oui. Il s'est écrété, en repli, effectivement, par rapport au record qui avait été franchi il y a quelques jours, avec plus de $2 450 l'once, qui était constitué finalement le record historique depuis une centaine d'années. Oui, je pense qu'il y a quatre facteurs en fait globalement qui poussent l'or. Vous avez la croissance, les anticipations d'inflation, les coûts de l'énergie, et puis également la perception du risque par les investisseurs. Le point essentiel aujourd'hui, c'est que tous ces facteurs sont quand même globalement bien orientés. On a toujours de la croissance dans le monde est en croissance, on le voit sur les marchés, donc ça c'est quand même un élément plutôt favorable. De l'inflation, on en aura peut-être un peu moins que ces dernières années, mais peut-être un peu plus que nous n'en avons connu entre 1990 et 2010 globalement. Donc on voit que le monde développé est prêt à s'accommoder de niveaux d'inflation un tout petit peu plus élevés que par le passé, parce que plus d'inflation, ça veut dire également plus d'activité, et c'est également la meilleure façon de rembourser la dette. Et dans ces conditions-là, l'or constitue une valeur refuge, alors que les tensions géopolitiques et les risques en tout genre, et que l'inquiétude progresse dans le monde. Donc le fait d'avoir 10 à 15% d'or dans un portefeuille, ce qui constituait il y a encore une dizaine d'années une aberration, devient quelque chose qui est assez logique. Et comment dire, il n'y a rien d'anormal lorsqu'on sait que traditionnellement, l'or dans les portefeuilles patrimoniaux, mais également dans les portefeuilles d'institutions, était considéré comme un actif stratégique. Oui. Ils ont une variable d'ajustement global des marchés financiers.
L'or vous attire énormément. Ce qui éblouit aveugle, on a parfois tendance à oublier de le rappeler, mais l'or vous attire beaucoup.
Non, on est plutôt à recommander à prendre les profits à ce niveau.
Ah bon ?
Parce que véritablement, on a eu une très belle embellie sur l'or, portée par les banques centrales, portée par une demande assez exceptionnelle venant de pays comme la Chine et l'Inde. On est sur des niveaux où il est compliqué de voir les banques centrales continuer d'acheter à un tel rythme.
Pourquoi ? Pour des raisons...
Parce que une raison de prix, en fait. Ouais. Ce sont des programmes qui sont quand même assez réguliers. Donc, il y a eu un peu d'emballement, là, suite au contexte géopolitique. En plus de ça, quand même, les corrélations existent. Quand les taux longs et les taux restent élevés ou que les taux longs montent, il y a un moment où, finalement, le rendement qu'on peut obtenir sur des actifs plus long terme devient attractif par rapport à l'or. Donc, il peut y avoir un peu un équilibrage. On a aussi eu la hausse du dollar qui finalement n'a pas pénalisé l'or. Bon, il y a un moment où les corrélations risquent de se remettre. Alors, je partage l'opinion, il ne s'agit pas de sortir entièrement de l'or, mais si j'avais un portefeuille où j'ai 15% d'or, nous, on descend à moitié, 7,5, 8. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est d'autres matières comme l'uranium, comme le cuivre. Et donc, tactiquement, on recommande de diversifier un petit peu hors de l'or et puis de prendre une respiration avec l'or actuellement.
Et alors, sur le marché actions, est-ce que l'Europe vous attire de plus en plus face à Wall Street ? Tout à l'heure, David Krug, pour la financière de l'Échiquier, il était avec nous dans la Bourse Cash à 15h40. Il nous disait, on est en train d'assister et on va assister de plus en plus au comeback boursier de l'Europe face à Wall Street parce que les astres s'alignent, nous dit-il. D'abord la BCE qui devrait baisser ses taux avant la Fed, ben ce sera bon pour l'Europe parce que l'Europe est moins chère que Wall Street, qu'elle apporte plus de rendement aussi que le marché américain et puis que l'offre d'actions en Europe par les rachats d'actions puis les sorties de cotes, l'offre d'actions tend à diminuer plus en Europe encore qu'aux États-Unis, donc moins il y a d'offres, plus ça monte. Et donc pour lui, l'Europe, oui, sera amenée à opérer un comeback boursier face à Wall Street. Est-ce que vous achetez ce discours et ce scénario ?
C'est déjà un peu le cas depuis le début de l'année. Hein. On a des belles performances sur le marché européen, surtout au niveau des grosses sociétés. Mais c'est surtout le fait que ces grosses sociétés sont actives sur l'ensemble du globe. Et donc leur capacité d'aller capturer de la croissance et du chiffre d'affaires là où il est disponible et là où on voit de la dynamique. En fait, les grosses sociétés européennes, quand vous achetez en fait l'Eurostock 50, vous n'achetez pas l'Europe. Vous achetez en fait des sociétés mondiales. Et donc, comme vous l'avez mentionné, les valorisations sont quand même plus attractives. Les dividendes sont tout à fait décents. Et ce sont des sociétés qui probablement vont publier des résultats intéressants parce que si on a un redémarrage asiatique, par exemple, les sociétés européennes vont pleinement pouvoir le refléter. Les sociétés allemandes, notamment, devraient pouvoir surprendre quand même dans le courant de l'année avec des résultats qui réaccélèrent. Tout ça, ça va attirer les investisseurs.
L'Europe amenée peut-être à opérer un comeback, en tout cas limiter, réduire un tout petit peu l'écart de valorisation avec Wall Street dans les prochaines semaines ou mois, Emmanuel ?
Je le souhaite ardemment. Néanmoins, pour qu'on ait véritablement un rattrapage européen, pour que l'Europe soit de retour, il faut qu'on ait de la croissance en Europe, comme le soulignait d'ailleurs mon voisin. Donc il faut que l'Europe admette d'avoir une véritable stratégie de croissance qui s'appuie sur la demande interne, sur la relance de l'investissement, de la consommation. Un pas a été fait, plusieurs d'ailleurs en ce sens, par les autorités européennes. Et on a eu d'ailleurs dernièrement des contributions tout à fait significatives avec le discours remarqué de M. Draghi à Bruxelles, le rapport
très
l'État.
Pressenti peut-être d'ailleurs pour succéder à Ursula von der Leyen. On voit son nom circuler.
Ursula von der Leyen ou comme peut-être président du Conseil européen. Nous verrons bien. Ouais. Néanmoins, je pense que la voie qui est fixée par Draghi, par l'État, par d'autres également, par le président de la République, il faut le souligner, va dans le bon sens. Il faut que l'Europe se prescrive une stratégie de croissance, une stratégie de développement.
Étienne nous appelle à 8 minutes de la clôture depuis la tour Euronext. Bonsoir Étienne, comment ça se présente dans quelques instants à Paris ?
Bonsoir. Eh bien écoutez, c'est une séance de consolidation ce mercredi, moins 0,3% pour le CAC 40 qui est sur les plus bas niveaux de la séance, qui perd les 8100 points, 8082 points, 2 milliards d'euros négociés dans l'indice à 8 minutes du fixing. Du côté de Wall Street également, ça s'essouffle, hein, avec notamment le titre Boeing, tiens, qui est juste à l'équilibre, malgré des résultats supérieurs qu'attendus tout à l'heure aux États-Unis, avec notamment des investisseurs américains là qui sont en train de voir Joe Biden eh bien signer un paquet d'aide, hein, quand même 60 milliards pour l'Ukraine, quasiment 30 milliards pour Israël, 8 milliards pour Taïwan, et puis surtout le texte, ça y est, visant à un changement de propriétaire de TikTok, hein, c'est fait. Donc est-ce que c'est une nouvelle passe dans les tensions géopolitiques ? Ça sera à suivre. En tout cas, aujourd'hui, vous avez une pause qui s'opère, que ce soit aux États-Unis mais aussi en Europe, après deux très belles séances.
Effectivement, et vous avez peut-être, vous tous qui nous suivez, des questions sur vos portefeuilles, n'hésitez pas à nous les envoyer. Culture Bourse vous répond, Julie Cohen-Horton et ses experts, à 15h50 chaque jour. Vous nous envoyez vos questions en flashant en scannant le QR code qui apparaît sur vos écrans depuis le milieu de l'après-midi et qui continuera jusqu'à 18h, ou encore par mail à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr. 17h28, on entre dans la data room. Le poids et le choc des datas, c'est votre collision quotidienne avec le réel. La data room. David et Emmanuel, êtes-vous prêts ?
Oui.
Oui.
C'est ici et maintenant que tout va se jouer. Vous avez chacun 1 minute 30 pour présenter une data forte et pourquoi ceux qui nous suivent doivent l'avoir en tête avant d'investir. David, votre chiffre, votre data aujourd'hui, c'est 2,9%.
Absolument, c'est la révision, enfin l'estimation de la croissance américaine pour 2024, donc du PIB américain, 2,9%. On avait démarré l'année, les anticipations étaient plutôt aux alentours de 2.1 à 2.3. Alors, est-ce qu'il y a un petit peu trop d'enthousiasme dans ce 2.9? C'est possible, mais il n'empêche qu'on ne se lasse pas quand même de voir cette capacité de l'économie américaine à finalement sans cesse être capable de créer de la croissance avec des vecteurs extrêmement structurels et structurants, solides en place. Les plans d'investissement, le plan de lutte contre l'inflation, le plan de semi-conducteurs, qui sont tous des plans qui sont orientés vers les entreprises, vers la création d'emplois, vers la création de valeur, la création de propriété intellectuelle et d'innovation finalement. Et puis en même temps, on voit ce marché du travail qui reste extrêmement solide. On a cet effet sur les classes sociales, avec finalement une amélioration du revenu réel après impôt depuis 2 ans d'une majorité de la population américaine. Donc là aussi, il y a un effet richesse qui se retrouve en fait dans ces éléments-là. Oui. Et puis, et donc ça nous fait dire, mais oui, peut-être que la Fed ne va pas pouvoir baisser ses taux, mais il y a un moment où il va falloir qu'on reconnaisse quand même la qualité de cette croissance. Et si véritablement les États-Unis arrivent à nous sortir 2,9% cette année, on peut imaginer derrière que les sociétés, pour une majorité d'entre elles, ne vont pas décevoir. Et on va être sur des multiples peut-être de 2 fois, 3 fois. Donc peut-être du 8, peut-être du 10% de croissance après déjà une année 2023.
Des marchés, des indices.
La croissance des profits des grandes sociétés.
Profits, oui, d'accord.
Mais bien sûr, il y a une partie de tout cela qui va se traduire en performance de marché et en révision, finalement, en baisse des valorisations, qui sont toujours le sujet avec les États-Unis, mais finalement, cette prime...
C'est incroyable, parce qu'on est à peine au mois d'avril, et donc la prévision de croissance pour cette année 2024 était à 2,3% pour les États-Unis cette année. On est à peine au mois d'avril, on est passé de 2,3% en janvier à 2,9% attendu, finalement, là, au mois d'avril.
Ouais.
C'est quand même... Ça va très, très vite, effectivement. Alors, le marché price à 20%, c'est pas beaucoup, 20%, mais c'est pas rien non plus. 20%, peut-être encore une hausse de taux finalement de la Fed face à cette croissance. Le débat est ouvert.
C'est une hypothèse qu'on peut pas complètement retirer, c'est vrai.
Effectivement. David, c'est livré à vous, Emmanuel, de nous éveiller ce soir. Votre data, 210 milliards d'euros.
Effectivement, Guillaume, 210 milliards d'euros, c'est le montant exceptionnel, historiquement élevé des rachats d'actions des entreprises européennes en 2023. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Pour les investisseurs, c'est plutôt une bonne nouvelle, finalement, hein, puisque ça renchérit effectivement le prix des actions par la diminution du nombre d'actions en circulation. Il faut rappeler à nos auditeurs, effectivement, que les entreprises ont deux façons de rémunérer, finalement, leurs porteurs de titres, soit par le truchement de dividendes, donc par le versement d'une quote-part du résultat, avec une certaine récurrence, une stabilité dans le temps qui vise à récompenser la fidélité de l'actionnaire, soit par des rachats d'actions qui, traditionnellement, en Europe, présentaient un caractère assez exceptionnel. Et principalement en France, où dans le passé, ces rachats d'actions faisaient l'objet d'un régime fiscal qui était assez défavorable. Mm-hmm. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Effectivement, les sociétés se donnent libre cours dans ces pratiques, avec, il faut le signaler, une participation active du management dont la rémunération est en grande partie liée à la progression des cours, qui participe à ce mouvement. Donc c'est plutôt bon pour le management, c'est plutôt
pour
favorable,
les actionnaires, ouais.
Effectivement, pour les investisseurs, dans un contexte où le rendement des actions européennes, j'entends le rendement du dividende est plus élevé que celui de leurs homologues outre-Atlantique.
4,5% le rendement moyen des marchés européens, 4,5% contre 3,8% à peu près le rendement
absolument,
moyen de Wall Street.
Absolument, ça c'est une tradition européenne et on doit finalement considérer que c'est un élément culturel qui est plutôt favorable.
C'est le rendement, c'est le fameux un tien vaut mieux que deux tu l'auras.
Oui, c'est cette dimension, comment dire, on peut dire d'économie de rente, mais sans y apporter d'ailleurs une connotation nécessairement défavorable. Mais qui est le propre effectivement de l'actionnaire européen, avec un marché qui était traditionnellement moins liquide, moins profond que le marché américain. Donc c'est plutôt bon pour les investisseurs. En revanche, pour l'économie, c'est là où on doit se poser la question. C'est-à-dire que ça veut dire que que les entreprises ont moins d'idées d'investissement et que l'Europe s'enfonce dans une certaine situation de sous-investissement qui existe malheureusement depuis longtemps.
Effectivement, donc 210 milliards d'euros de montant rachat d'actions en Europe en 2023, cette data que vous nous proposez. Dernière question, à Wall Street, on réfléchit sur le New York Stock Exchange à arrêter les horaires d'ouverture et de fermeture et avoir une cotation permanente et continue, un peu comme sur les cryptos où il n'y a pas de week-end, il n'y a pas d'horaire de nuit, etc. Voilà. Ce serait bien ou pas?
Alors, Je pense que ce qu'ils essayent de faire, en fait, c'est de lutter un peu contre toutes les transactions qui sont faites hors heure de marché. C'est-à-dire tout ce qu'on appelle les dark pools ou les black pools. Et c'est vrai que c'est une partie d'activité qui leur échappe. Donc on peut comprendre de leur point de vue cette logique, finalement, d'être ouvert 24 heures sur 24. Par contre, là où, personnellement, ça me pose question, c'est que finalement, une action, c'est quand même un titre de propriété. Et un titre de propriété, théoriquement, on l'achète pas pour le revendre un quart d'heure après ou une demi-heure après. Alors c'est déjà possible aujourd'hui avec les heures d'ouverture, mais finalement de créer cette ouverture 24 heures sur 24, c'est vrai que ça va entraîner alors peut-être plus de liquidité, mais c'est une liquidité artificielle parce que c'est une liquidité avec un seul dollar. On va avoir de multiples opérations tout au long de la journée. C'est pas très sain. On sait sur le long terme, on paye toujours, on finit toujours par payer ce genre de prix lorsque il y a un effet de levier beaucoup trop important.
Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés ce soir sur la Data Room et le club David Go pour B Durand Capital et Emmanuel Salle qui va rester avec nous. Emmanuel, parce qu'on a beaucoup de valeurs, beaucoup de publications et de valeurs sur lesquelles les auditeurs et téléspectateurs nous interrogent, donc si vous voulez bien Emmanuel, on continue. On refait la séance dans un instant et la clôture à vivre bien sûr. Etienne Braque sera avec nous depuis là, Tour Euronext. Merci beaucoup et à tout de suite.
BFM Business, BFM Bourse, la clôture à Euronext.
Etienne Braque nous accompagne en direct. Bonsoir Etienne. Pour la clôture effectivement des marchés européens, comment termine-t-on ce soir après le beau début de semaine?
Et dans le rouge, après un gain de 1% en l'espace de deux séances, vous avez le CAC 40 qui rend quelques points et qui perd 0,17%, 8091 points, à 13 points des plus bas niveaux de la séance. Il y a clairement eu un avant et un après Wall Street, notamment dès 14h30 avec les futurs américains. Wall Street qui s'essouffle, quand vous regardez notamment Boeing qui gagnait 2% l'ouverture et qui perd 1% désormais. Alors le secteur des semi-conducteurs est toujours à la fête, notamment Texas Instruments qui gagne quasiment 10% à Wall Street. Ça permet au Nasdaq de gagner 0,2%, mais le Dow Jones, lui, de son côté, perd 0,3%, le S&P moins 0,1%. Là aussi, le S&P avait fait deux belles séances hier et avant-hier, quand le Nasdaq, de son côté, est bien parti pour signer une troisième séance dans le vert. Alors, ce qui a pesé aujourd'hui sur la séance, ce sont les résultats d'entreprise. Alors, ce n'était pas des grosses capitalisations, mais quand même, mis bout à bout, Kering moins 6,8% à 326 euros, avec le groupe qui déçoit les attentes en termes de perspectives. Vous avez Orange qui perd plus d'abonnés qu'anticipé au premier trimestre en France dans le fixe, et ça le marché n'apprécie pas du tout. Moins 3,5% à 10,65€, quand Eurofins de son côté perd quasiment 8%. C'est compliqué l'après-Covid, même si la croissance est toujours là par rapport à 2019. À l'inverse, vous avez STM qui est la plus forte hausse du CAC, plus 5%, suivi de Accor avec les résultats de Hilton aux États-Unis qui sont applaudis. 3% pour Accor qui va dévoiler ses ventes demain. Demain, ça sera une très grosse journée, mon cher Guillaume, avec notamment demain matin Hermès. Vous aurez également les résultats de Schneider Electric. On parle là de deux grosses pondérations de l'indice parisien. Sanofi également qui va également dévoiler ses résultats. Et puis enfin, pour finir la semaine en beauté, Total Energy. Donc tout ça va continuer à animer la séance et peut-être retrouver du vert. En attendant, c'est du rouge. 8091 points, des volumes qui sont là dans cette séance de baisse avec quasiment 3,7 milliards d'euros négociés ce soir.
Effectivement, des volumes assez significatifs. Romain Dobry est avec nous depuis Bourse Direct. Bonsoir Romain, quel signal le marché ce soir envoie-t-il pour la suite?
Bien, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, le fait qu'on revienne sur des niveaux charnières de neutralisation de la baisse sur tous les indices et sur le futur CAC 40, la zone 8045-8080 contre lequel on a eu un petit échec pour l'instant. Donc rien de méchant, mais des niveaux à surveiller, ça pourrait être le terrain de jeu pour les vendeurs pour reprendre un petit peu la main. Le risque, c'est de retourner chercher 7981, puis 7926, et là on pourrait assister à un nouveau sell-off. Sur les indices, si on parvient à se réinstaller au-delà de 8080, on pourrait aller chercher des extensions à 8160. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de momentum pour former de nouveaux plus hauts tout de suite sur les indices, plutôt du stock picking à faire. Et on peut constater qu'au sein de la séance, des valeurs comme LVMH ou L'Oréal, qui étaient en hausse de plus d'1%, terminent tout juste à l'équilibre. Il y a peut-être une rotation sectorielle qui est en train de se mettre en place. On va surveiller ça au cours des jours qui viennent, ça va être intéressant.
Effectivement, Romain Dobry, Bourse Direct, régulièrement à nos côtés. Merci beaucoup Romain. Et tout de suite, on va alors non seulement débriefer cette séance, mais en plus répondre aux questions que vous nous envoyez, de plus en plus nombreux d'ailleurs sur nos réseaux sociaux, notre fil X, BFM Bourse. On est en direct d'ailleurs là, jusqu'à 18h sur notre fil X, ainsi que sur notre fil LinkedIn, où vous nous interrogez aussi chaque jour. Chaque soir, après la clôture, on répond à ces questions que vous nous envoyez. C'est parti.
BFM Bourse, on refait la séance.
Grâce à Emmanuel Salle, président de la Financière de la Cité, qui nous accompagne en fil rouge ce soir. Rebonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Franck Morel aussi depuis Zone Bourse, les rives du lac d'Annecy, le Vénard. Bonsoir Franck, on est ravis de vous retrouver. Bronzé d'ailleurs.
Bonsoir à tous.
Oui, la saison du ski nautique a démarré manifestement Franck, sur le lac d'Annecy.
On est sous la neige encore.
Ah bon? Et c'est vrai qu'il fait encore assez froid. Ne te découvre pas d'un fil. Et sur les marchés, tiens, on a cru en ce début de semaine avec la hausse, les deux hausses d'affilée, là, on avait pris 1% quand même en deux séances sur le CAC. On a cru que ça y est, on pourrait commencer à se dévêtir un peu, quoi. Voilà, effectivement, et que l'alerte des deux, trois dernières semaines était une fausse alerte. Puis ce soir, bon, on termine en petite baisse, rien de méchant, mais quand même, la dynamique est un peu interrompue, la dynamique du début de semaine. Comment est-ce qu'on voit la suite? On va vers un printemps boursier encore, la poursuite du cycle haussier, ou peut-être au contraire un atterrissage, d'après vous, Emmanuel?
Écoutez, moi, je vois pas de raison pour laquelle on aurait un atterrissage véritablement difficile sur les marchés. On a toujours quand même des conditions économiques et monétaires qui sont favorables, principalement aux États-Unis, on l'a déjà souligné. La Fed surveille effectivement l'inflation, mais à mon sens, ne devrait pas remettre en cause son agenda de révision à la baisse de ses taux directeurs. En zone euro, la situation est un peu plus tendue et on a une croissance vraiment extrêmement, extrêmement faible. Mais globalement, la plupart des entreprises européennes, on l'a déjà souligné, travaillent à l'international. Donc acheter l'Europe, c'est pas véritablement acheter la croissance européenne. Donc dans ces conditions, je ne vois pas de raison pour laquelle on ne devrait pas rester aujourd'hui investi sur les valeurs. Le fait que la bourse baisse aujourd'hui, je veux dire, c'est un épiphénomène dans l'évolution globale des marchés financiers.
Alors cette question sur nos réseaux sociaux, pour vous tous qui nous suivez sur le fil X, BFM Bourse notamment, cette question qu'on vous soumet, laquelle des publications du jour suivez-vous le plus particulièrement, avec le plus d'assiduité, parce qu'elles sont nombreuses les publications, Emmanuel. Est-ce que c'est Tesla que vous suivez en priorité, vous tous qui nous suivez? Est-ce que c'est plutôt Kering, Air Liquide ou pourquoi pas Boeing? Voilà les quatre options qu'on vous soumet. Vous avez été nombreux à voter, vous Emmanuel, dans ces publications, Tesla, Kering, Air Liquide, Boeing, laquelle suivez-vous le plus?
Écoutez, je crois que ce qui se passe sur Kering, est intéressant. Alors, il y a au-delà de la situation de Kering, à mon avis, c'est le fait de savoir si on doit rester investi sur le secteur du luxe, parce que Kering effectivement a été touché pour des raisons idiosyncratiques, comme on dit, liées essentiellement au positionnement de Gucci en Chine et à la contraction des ventes. D'autres valeurs du luxe que l'on connaît bien ont beaucoup mieux résisté du fait de leur positionnement sur le marché de détail, avec Sephora, s'agissant de LVMH, et puis également sur leur positionnement beaucoup plus diversifié sur le plan géographique et sur le plan des marques. Néanmoins, la question se pose de savoir si, au sein d'un portefeuille diversifié, dans un contexte où la demande interne se réduit, se contient en Chine, en tout cas n'offre pas les mêmes perspectives que par le passé, on doit rester autant que cela qu'on a pu l'être par le passé, investi sur le secteur de luxe avec des valorisations qui quand même sont tout à fait correctes.
Oui, enfin, un peu moins pour Kering. Kering, on a regardé la capitalisation, on l'a comparé aux autres grands acteurs du luxe. Franck, en l'occurrence, la capitalisation de Kering est désormais presque deux fois inférieure à celle de Richemont, par exemple. C'est-à-dire que Kering, dans cet univers du luxe, est en train de devenir un nain, c'est beaucoup dire, mais vraiment un petit acteur. C'est une capitalisation Kering même à peu près dix fois inférieure à celle d'LVMH désormais. Et encore un repli très net ce soir pour Kering de plus de 6%. Est-ce que le marché est sévère après cette publication, d'après vous?
Le fait que le cours de Kering ait fortement baissé ces derniers mois est quand même c'est logique, puisque les estimations des analystes ont été revues à la baisse de moitié. C'est-à-dire entre ce que pensaient les analystes il y a un an et ce qu'ils pensent aujourd'hui des perspectives bénéficiaires de la société, ça a été divisé par deux. Donc vous avez un impact important évidemment sur les cours. Et la publication d'aujourd'hui implique une nouvelle dégradation, une nouvelle révision à la baisse des perspectives bénéficiaires de l'ordre de 20%. Donc vous avez encore a priori à venir de la baisse. Il va falloir que Kering arrive à démontrer d'une relance de la marque Gucci, qui est près de 50% du chiffre d'affaires de Gucci et 70% de ses profits. Donc Kering, c'est Gucci et c'est Gucci qu'il faut suivre. Donc la publication d'aujourd'hui, eh bien, elle est pas bonne et elle informe sur le fait que ça risque d'être plus long que prévu à relancer la marque Gucci, qui est clairement ce que Kering doit réussir à faire. Alors après, est-ce que ça donne des indications sur le luxe? Si on lit à travers les lignes et qu'on s'intéresse au transcript de la publication des résultats, ce qu'on observe, c'est que il y a une forte probabilité que le luxe soit de plus en plus qu'il y ait des différents positionnements au sein du luxe, et que en gros Gucci et Kering soient plutôt dans du premium que dans du luxe, et que si on devait se positionner dans le vrai luxe, à ce moment-là il faudrait carrément se diriger sur du Hermès, et peut-être que LVMH se situe du coup entre du Hermès et du Gucci, du Kering. Donc il y a plusieurs niveaux dans le luxe, et ce qu'on observe, c'est que les niveaux le plus élevé se portent le mieux et que tout ce qui est finalement premium ou luxe, mais pas vraiment, sous-performe et est subi quand on voit que par exemple Inditex sur le low cost performe aussi. Donc en gros, il faut mieux être dans le low cost ou dans le super luxe que se positionner à peu près au milieu.
Voilà, c'est voilà qui est dit. Et ce titre Kering ce soir, deuxième plus forte baisse du CAC avec Eurofins qui fait encore pire, qui perd 7,7%. Là aussi, c'est une publication. Depuis son entrée dans le CAC 40, c'était il y a à peu près 3 ans, Eurofins a perdu plus de 50% depuis son entrée dans le CAC. Encore une entreprise qui, depuis qu'elle est entrée au CAC, recule, sous-performe, chute en bourse. C'est souvent la malédiction des nouveaux entrants. Et alors, pour Eurofins, cette malédiction a été importante. Ce soir, donc, publication sanctionnée à moins 8% quasiment cette valeur. Cette question aussi d'une de nos auditrices qui nous suit régulièrement. Elle s'appelle Caroline sur Air Liquide. Air Liquide a publié, c'est une valeur très détenue justement par les investisseurs particuliers. La baisse des prix du gaz entraîne du coup pour Air Liquide une baisse des facturations. Le titre ce soir, Air Liquide, Emmanuel, que vous suivez, Air Liquide, vous l'aimez bien ce titre, a perdu plus de 2%. Plus de 2% de repli pour Air Liquide.
Oui, ça ne semble pas un signal absolument majeur, en tout cas pour Air Liquide. Donc c'est une valeur qui effectivement reste une valeur de fonds de portefeuille à laquelle on accorde toute notre confiance et très fortement corrélée bien évidemment à l'activité industrielle, et notamment à l'activité industrielle également en Europe qui montre, vous le savez, depuis plusieurs mois des signes de faiblesse, en tout cas même de récession en Allemagne. Donc c'est un sujet qu'il faut suivre. Néanmoins, ils sont arrivés à compenser la baisse des volumes par une augmentation des prix. Donc tout ça fait que on reste, disons, raisonnablement positif sur la valeur Air Liquide. En tout cas, on ne voit pas de raison aujourd'hui d'avoir un avis négatif sur les perspectives d'Air Liquide.
Sandrine du Cotentin aussi nous écrivait sur notre fil XBFM Bourse pour nous demander votre avis sur Air Liquide le premier trimestre. On a cette autre question de Julien aussi sur notre fil X. On n'avait pas prévu d'en parler, mais PepsiCo, voilà, qui a publié. On parlera de Tesla dans un instant, bien sûr, Franck, mais votre avis sur PepsiCo, que pensez-vous de cette valeur qui semble enfin remonter la pente, nous dit Julien, cet auditeur.
On est sur de la consommation non cyclique. Donc on est typiquement sur les secteurs où lorsqu'on peut craindre que les marchés corrigent ou qu'on a le sentiment que le potentiel est restreint, c'est ce type de valeur qui se comporte bien. Quant à la publication de ce jour, elle est bonne. Donc on a un début de recovery et de relance de la dynamique sur Pepsi, sur lesquelles on peut tout à fait être positif.
Oui, alors PepsiCo fait partie de ces valeurs, de ces sociétés qui pourraient, on verra, finir par se trouver disruptées par l'arrivée des fameux médicaments anti-obésité. On verra, bien sûr. Il se trouve que dans ces médicaments anti-obésité, il y a deux gros acteurs. Mais peut-être un troisième, un trublion qui pourrait surgir, c'est Viking Therapeutics, à ne pas rater. Après la clôture de Wall Street ce soir, Viking Therapeutics va annoncer ses résultats et ses perspectives. Ce sera l'une des valeurs sur lesquelles Wall Street demain sera le plus amené à réagir parce que les médicaments anti-obésité, vous le savez, vous qui nous suivez, c'est bien sûr une thématique transversale et qui, pour ceux qui parviennent à les produire et les fabriquer, amène évidemment un potentiel marché très très important. Donc Viking Therapeutics qui pourrait peut-être un jour finir par concurrencer, pourquoi pas, on verra, Novo Nordisk ou encore l'américain Eli Lilly. Tesla, il est temps d'en parler. Tesla gagne 13% après sa publication, l'annonce d'investissement en intelligence artificielle et puis aussi surtout le calendrier des véhicules low cost de Tesla, ce calendrier qui pourrait être amené à être avancé. Est-ce que vous avez été convaincu par le propos d'Elon Musk, le patron de Tesla, ou c'est de la com, et en bourse, la com, ça marche, plus 13%. Mérité ou pas mérité, Franck?
Ah non, je pense que la publication de ce jour est très décevante. On sort en chiffre d'affaires 5% en dessous des attentes. En termes de bénéfices, on est 20% en dessous des attentes. Donc on est dans un contexte très compliqué puisque Tesla s'est lancé dans une guerre des prix. Le but étant d'assécher la concurrence qui a des coûts beaucoup plus importants que pour produire des véhicules. Mais on a néanmoins une concurrence féroce. Vous avez aussi des départs, des licenciements en pagaille chez Tesla. Il y a eu 3600 rappels du Cybertruck récemment. Il y a quand même pas mal de nuages qui s'amoncellent. Et quand bien même Tesla arriverait à son objectif qui est de prendre le marché, eh bien, elle risque de le prendre au détriment de ses marges. Et donc, en tant qu'actionnaire, je ne suis pas sûr qu'il soit opportun aujourd'hui d'être positionné sur la société, sur le titre, pour la bonne et simple raison que les marges ne vont pas être bonnes, si, même si Tesla y arrive. Donc, Dans ce contexte, Musk nous fait un coup de com. Hein. Il nous invente des produits qui vont bientôt sortir, des humanoïdes qui seront bientôt, qui seront dès la fin de cette année dans les usines et qui seront même commercialisés immédiatement. Donc pour moi, tout ça, c'est plus un coup de com. La société se paye 65 fois ses résultats 2024 et 40 fois les résultats de 2025 avant la révision à la baisse des analystes qui va intervenir, puisqu'on a publié 20% en dessous des attentes. Donc ça veut dire que les ratios que je viens de vous données sont 20% trop élevés. Donc avec ces niveaux de valorisation, je pense qu'on a plus, on a beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Je pense que ça peut être un terrain pour prendre des positions vendeuses sur la société.
Emmanuel, est-ce que Tesla, qui reste une valeur tech à ces niveaux de valorisation, est condamné entre guillemets à finir par perdre ce statut de valeur tech pour devenir une valeur automobile à terme classique?
Bah écoutez, Monsieur Musk essaye de nous convaincre du contraire, puisque nous a expliqué que c'était même une valeur d'intelligence artificielle. On comprend effectivement tout l'intérêt qu'il peut avoir à tenir ce discours. Non, moi je suis plus comme mon confrère extrêmement réservé sur la stratégie industrielle de Tesla, pour toutes les raisons qui ont été indiquées, mais également en raison de la concurrence chinoise. Quand vous voyez par exemple un groupe comme Xiaomi qui a lancé récemment, vous savez, une nouvelle voiture, la SU7, avec plus de 100 000 ventes en Chine au cours des premiers jours, et avec un certain nombre, une qualité de réalisation et surtout un prix qui vient directement concurrencer les meilleurs modèles de Tesla, notamment le modèle 3 qui vient d'être mis sur le marché. Donc je crois qu'il y a véritablement des enjeux industriels, des enjeux de marque également, des enjeux de positionnement, produit-prix, de compétitivité, comme on dit en Europe, extrêmement important pour Tesla. Donc je ne suis pas surpris effectivement des inquiétudes qui peuvent se faire jour sur le titre.
Plus 10 à Wall Street après avoir reculé de 43% quand même depuis le 1er janvier.
Tesla, voilà. Les plus 10 ne rattrapent pas comme un plus 10 sur une base qui effectivement a été revue à la baisse.
Et ce soir après bourse, Meta. Voilà, ce sera la publication de Meta. C'est celle qu'il faudra suivre avant demain soir, Alphabet et Microsoft. Mais déjà, Meta ce soir, est-ce que vous en avez... Alors pour le coup, il y a un vrai retour en bourse là, de Meta. Le titre avait plongé, le Metaverse n'avait pas convaincu le marché. C'était il y a 2-3 ans et depuis, le titre s'est à nouveau envolé, touchant même tout récemment des plus hauts historiques. Est-ce que cette dynamique-là, vous pensez que la publication ce soir, les perspectives devraient la nourrir?
Ça dépend essentiellement de l'évolution de la publicité sur Internet, puisque c'est essentiellement là leur revenu. Personnellement, je préfère d'autres valeurs que celle-là. C'est tout ce que je peux
Franck,
considérer.
Sur Meta ce soir, vous avez beaucoup d'espoir ou pas?
Alors on a de l'espoir d'abord et avant tout parce qu'on est positionné sur le titre à l'achat dans notre portefeuille US. Donc oui, on a beaucoup d'espoir. Et on devrait avoir de la volatilité demain sur le titre. Il y aura une information importante, c'est de savoir si le segment de la vente de publicité sur Internet, mais plus particulièrement via les réseaux sociaux, qui est vraiment le cœur de business de Meta, c'est 98% de leur chiffre d'affaires, continuera à surperformer la publicité en général sur Internet, comme par exemple celle d'Alphabet Google. Donc vous avez vraiment deux rythmes en ce moment au niveau du chiffre d'affaires publicitaire, celui de Meta où on a de la croissance et celui d'Alphabet où on est beaucoup plus, où il y a beaucoup moins de croissance et c'est beaucoup plus compliqué. Donc théoriquement la publication de ce soir devrait être bonne laisser entrevoir une poursuite de la croissance sur le segment de la pub autour des réseaux sociaux. Donc on sera effectivement intéressé aussi d'avoir plus d'informations sur la stratégie autour de l'IA, puisque Meta accélère autour de l'open source et de l'intelligence artificielle, et ça je pense très intéressant de savoir plus.
Merci beaucoup. Franck Morel, depuis les rives du lac d'Annecy, où l'on skie toujours donc. Il y a un retour de la neige sur les Alpes en ce moment. Profitez bien Franck, bon ski nocturne ce soir, le président de Zone Bourse. Merci Emmanuel.
Merci Guillaume.
Bons embouteillages et bon retour, sinon en métro, l'un ou l'autre, les deux c'est pareil, c'est du bonheur. Emmanuel Salle, la financière, la cité régulièrement à nos côtés. Et le CAC 40 ce soir, qui aura donc reculé légèrement, moins 0,17%. Dans un instant, vous retrouvez Thomas Asportas, Good Evening Business, Bruno Le Maire, l'invité d'Adil Chevrillon aussi, dans quelques instants sur BFM. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.